Vous êtes la prunelle de ses yeux. Amen. Et on va continuer à essayer de comprendre comment Dieu nous regarde. Quelle est l'attitude de Dieu à notre égard? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Je suis convaincu d'une chose, quand le Seigneur a mis ce thème sur mon cœur, ouais, que si nous pouvons saisir que nous sommes la prunelle de ses yeux, nous allons aussi au même temps comprendre que les autres. Vous savez les autres, vous connaissez les autres? Parce qu'il y a nous et après il y a les autres, n'est-ce pas? Que les autres sont aussi la prunelle de ses yeux. Amen, on va faire une bonne déclaration tous ensemble. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Si vous voulez lever votre Bible et dire avec moi. Voici ma Bible. La foi vient de ce que j'entends et je décide d'entendre la parole de Dieu. Je donne libre cours à l'Esprit de Dieu. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je demande à Dieu de me remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Je ne suis pas un auditeur oublieux, mais je mets la parole de Dieu en pratique et je suis heureux dans mon activité. Je crois que je reçois dans le nom de Jésus. Amen. Donc, notre verset clé pour ce matin et pour cette semaine, c'est Psaume 8, Psaume 8, versets 5 à 7. La parole de Dieu dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prends garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. » Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. On va revenir là-dessus. Vous allez voir pourquoi. Ouais. Mais nous avons commencé cette année en regardant, en nous posant la question, quelle est l'attitude de Dieu envers l'homme? Oui. Souvent, nous avons entendu par des gens religieux que Dieu est en colère avec l'homme qu'il a créé. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Dès qu'Adam et Ève ont péché, Dieu a mis en place un plan de rédemption. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais voulu que l'homme s'éloigne de lui. Il n'a jamais voulu que cette communion intime qu'il avait avec l'homme soit brisée. Amen. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et lui dire, vous êtes la prunelle de ses yeux? Regardons un autre verset. Le psaume 144, verset 3, dit, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et quand nous avons déjà entendu ce matin, c'est bon, on regarde les choses dans l'Ancien Testament, mais est-ce que c'est bon pour nous? Parce que nous ne sommes pas des croyants de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Nous sommes les croyants du Nouveau Testament. Une nouvelle alliance, la Bible dit une meilleure alliance. Et en Hébreux chapitre 2, verset 6, et ça me fait toujours sourire ce verset. Parce que l'auteur d'Hébreux marque quelque chose, et je ne sais pas si vous êtes comme lui, mais il dit... Hébreux 2, 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Ça veut dire, je ne me rappelle pas où c'est dans la Bible, mais je sais que c'est dans la Bible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a un verset qui dit, mais je ne sais pas où. C'est ça qu'il est en train de dire dans la Bible. C'est génial. Vous savez, connaître la référence n'est pas aussi important que connaître le verset. Amen. Savoir où c'est utile pour montrer à quelqu'un d'autre. Mais connaître la parole, c'est ce qu'on a besoin de cacher dans notre cœur. On peut mémoriser les références si on veut, ou on peut méditer la parole pour que ça descende dans notre cœur. Et je crois que c'est marqué là pour nous faire un peu sourire. Et il dit, c'est marqué quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. » Ce même verset revient dans le Nouveau Testament parce que Dieu est en train de dire, c'est pour vous, mes enfants. Amen. On peut dire qu'Israël était les serviteurs, les servants de Dieu. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes les enfants de Dieu. Hallelujah. Il est notre Père et il veut que nous les connaissions en tant que Père. Que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Est-ce ambigu ce verset? Est-ce que c'est ambigu? Vous savez ce que le mot ambigu veut dire? Le mot ambigu veut dire, entre autres, douteux, énigmatique, obscur, incertain, confus, indécis. Pas du tout. Je trouve que la parole de Dieu est très claire si nous prenons le temps pour la lire. Oui, quelqu'un dit que vous avez besoin des experts pour le mal comprendre en réalité. Mais quelquefois, on annonce quelque chose comme « Dieu aime les hommes » et les gens disent « Ah, fais attention de ce que vous dites. » Un peu bizarre, non? Dieu désire plus que toute autre chose d'avoir une relation intime et personnelle avec chacun. Je veux que ça ressonne dans votre cœur. Dieu désire avoir une relation intime et personnelle avec vous. Dieu attend. Moi, je comprends cela. Est-ce qu'il y a des couches tôt ici? Non? OK. Est-ce qu'on a des couches lève tôt? Parce que nous voulons, ça va ensemble, n'est-ce pas? C'est difficile de coucher tôt à lever tôt. Moi, je suis un lève tôt. Si je peux, je me couche tôt aussi. Amen. Je suis un lève tôt. Est-ce qu'il y a d'autres lève tôt? Vous savez, c'est difficile quand vous êtes marié et heureux. Oui, et vous aimez votre conjoint et vous êtes un lève tôt. Vous savez ce que j'ai besoin de faire le matin quand je me réveille? J'ai besoin de glisser du lit et sortir de la chambre. Pourquoi? Parce que je veux réveiller ma femme. C'est vrai. Je fais ça depuis 31 ans maintenant. J'aime ma femme et je veux lui parler. Je veux demander qu'est-ce qu'elle pense. Je me réveille toujours avec énormément d'énergie. Excusez-moi. À cette heure-ci, je suis un peu calme. Oui, je sais que ça choque les gens, mais il faut me voir à 4 du matin. Je suis plein d'énergie. Oui. Je ne fais pas le ménage à 4 du matin parce que je ne veux pas réveiller les voisins. Mais j'ai tellement d'énergie et je veux parler avec ma femme. Je veux poser une question, je veux lui dire ce que j'ai dans mon cœur, si j'ai un rêve ou une pensée pendant la nuit. Et vous savez, je l'aime vraiment. Donc je glisse du lit et je sors de la chambre. Et pendant plusieurs heures, je passe du temps avec le Seigneur et je fais d'autres choses. Je prépare les messages et les choses comme ça. C'est qui je suis. Vous savez, quelqu'un vous attend réveillé le matin. Est-ce que vous le savez? Oui? Le Seigneur attend votre réveil parce qu'il désire passer la journée avec vous. Ça, c'est une révélation pour quelqu'un ce matin. Il veut passer la journée avec... Oui, mais c'est pas très intéressant ma journée. Lundi matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je pars au travail, je travaille, je rentre fatigué, je fais ceci. Mais vous savez, il aimerait faire tout ça avec vous. Il veut venir au travail avec moi. Moi, je m'appelle avoir dit ça à un homme d'affaires qui était... Il réussissait assez bien. Et je lui dis, mais est-ce que vous savez que Dieu veut venir au travail? Il dit, oh, personne ne m'a jamais dit cela. Moi, je partais toujours au travail seul. J'avais pensé que j'avais besoin de bosser, tout ça. Et il dit, mais c'est génial! Dieu vient avec moi! Alléluia. Quelqu'un va avoir un déclic sur ça, je suis convaincu. Ça va changer pour vous, aller au travail. Dieu veut une relation personnelle et intime avec chacun d'entre nous. Amen. Jésus a dit quelque chose de très important. Nous savons, ou nous devons savoir, que Jésus est venu sur terre mourir sur la croix pour payer nos péchés. Est-ce que nous sommes tous au courant de cela? C'est la première but, la première raison pour laquelle que Jésus est venu, c'est de payer pour les péchés de l'humanité. Amen. Mais il n'a pas seulement fait ça. Il avait d'autres objectifs, et l'un de ses objectifs, c'était de nous faire connaître le Père. Parce que toutes sortes de mystères sont venus autour du Père, qu'il est difficile et il est un Père fouettard et qu'il est vieux, ils ne comprennent pas nos temps et toutes ces histoires. Et Jésus a dit quelque chose en Jean chapitre 10 verset 9. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas Jean 10, c'est Jean 14, 10. J'ai encore cette erreur-là, excusez-moi. C'est Jean 14, 10. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Donc, si vous ignorez comment est Dieu, regardez à Jésus. Amen. En vitesse, quelques versets pour nous rappeler. Oui. Quel est notre Père? Jean 3,16 dit, vous pouvez citer peut-être avec moi, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 17,3 dit, « Or la vie, c'est qu'ils te connaissent. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. » En Romains 5, verset 8, il dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je ne sais pas, mais peut-être ça, c'est une nouvelle pensée pour certains d'entre vous. Vous avez des voisins, des collègues, des membres de votre famille qui sont pécheurs aujourd'hui. Ils vivent en rébellion contre Dieu. Je veux que vous sachiez que Christ est venu mourir pour eux, ouais, pendant qu'ils étaient dans cette situation, exactement quand il est venu mourir pour moi, quand moi j'étais loin de lui et que je ne lui pensais pas du tout de lui. Amen. Parce que quelquefois on entend les gens dire, oui mais Dieu aime les chrétiens. Non, Dieu aime le monde. Il aime les êtres créés à son image, selon sa raison. Et il veut, écoutez bien, il veut que nous devenions tous ses enfants. Parce que ceux qui n'ont pas accepté Jésus ne sont pas les enfants de Dieu. Moi, j'ai entendu les gens dire, mais toute l'humanité, c'est les enfants de Dieu. Non. Nous devons choisir qui est notre Père. Un autre verset. Romains 8, 32. Il dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Dieu nous offre Jésus. Amen. Un don gratuit. Et il nous offre toutes choses avec lui. C'est combien il nous aime et cette offre est ouverte à tout le monde. Hallelujah. Amen. Peut-être ça va vous choquer encore, une autre chose que je vais dire, mais si vous le voulez ou pas, Dieu vous aime. Quelqu'un dit, mais j'ai l'impression que toute ma vie, Dieu était en train de courir après moi. Et moi, je dis, exactement. Dès votre conception, pas votre naissance, peut-être on a besoin de dire ça et redire ça plusieurs fois. Oui, oui. Un bébé, oui, ne prend pas vie le jour qu'il est né. Un bébé prend vie le jour qu'il est conçu. Mais dès votre conception, Dieu vous a aimé et il court après vous. Et quelquefois, on dit, mais Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que je prie pour la famille, sans vouloir rien savoir. La Bible dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Quand je pense à ma famille loin, hein, et pour Laure et moi, notre famille, certains sont très très loin, on dit, Seigneur, envoie des ouvriers, envoie des frères et sœurs qui puissent leur parler. Et on entend les gens dire, mais partout que je tournais, j'ai rencontré les chrétiens. Alléluia. Amen. Matthieu 10, versets 29 et 31. Vous aimez la nature? Vous appréciez? Les oiseaux qui chantent? Oui? Oui? Non, quelqu'un dit non et ça vous réveille le matin, c'est ça? Moi, je trouve c'est magnifique. Moi, je me réveille avant que les oiseaux. Oui, j'attends qu'ils se réveillent pour chanter pour moi. Oui? Matthieu 10, 29, 31. Écoutez bien, pour que ce soit clair. Il n'y a rien de spirituel d'être un lève-tôt. Parce qu'on a fait croire à une époque que c'était spirituel de prier tôt le matin. Mais vous savez, c'est aussi spirituel de veiller tard et prier. Non, mais je pense que ces choses ont besoin d'être dites. Moi, je ne suis pas en rien plus spirituel que ma femme. Mais elle ne se lèverait pas à 4 heures pour prier, pour chercher Dieu. Mais quand moi je suis au lit, elle peut être en train de lire et d'étudier et de prier. Ce qui est spirituel, c'est celui qui cherche Dieu. Matin ou midi ou soir ou pendant la nuit, ça ne fait rien, mais il faut le faire. Vous êtes prêts? Matthieu 10, 29, 31 dit, « Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il ne tombe pas 1 à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Au moins, les miens étaient à l'époque. J'aurais dû mettre une photo, n'est-ce pas, de moi avec des cheveux. Certains voient et disent, non, c'est pas toi. Oui, oui, peut-être je suis né sans cheveux, mais pendant plusieurs années, j'avais des cheveux. Hein? Il dit, ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Si les oiseaux ont de la valeur, et aujourd'hui, je sais qu'on est un peu dans les déséquilibres, n'est-ce pas? On a plus de valeur, oui, à une poisson ou une je sais pas, pour une marmotte qu'on donne à un être humain quelquefois. Oui. L'instant qu'on croit qu'une espèce va arriver à l'extinction, on lui donne plus de valeur que l'être humain. Et je dis, non, je suis désolé, aucun animal, aucune espèce a la valeur d'un être humain. Vous êtes d'accord? Que ce soit clair. Parce qu'on peut aimer ces choses, apprécier ces choses, soutenir les œuvres qui aident ces choses, mais d'abord, ouais, prends soin de l'être humain, surtout celui qui habite autour de vous. Amen? Oui, j'espère que ça vous aide. Mais il dit, ne craignez pas, vous valez beaucoup plus, que beaucoup de passereaux. Amen? Le psaume 139, versets 13 et 14. Encore une verset clé, une des versets préférés de Laura, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Ça, c'est un verset à méditer. Le psalmiste dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand je sais que beaucoup de gens rigolent quand Laura dit, déclare avec moi, je suis génial. Mais c'est ça que le psalmiste est en train de dire. Oui? Nous sommes en train de dire, nous sommes géniaux. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés. Amen. Il est l'auteur de notre vie. Et il dit, oui, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et si moi je suis une créature si merveilleuse, vous êtes aussi. Allô? Le jour que nous acceptons que Dieu nous aime, et que nous croyons cela, nous avons besoin aussi d'accepter qu'il aime notre voisin. Amen. Il aime notre collègue. Il aime les autres membres de notre famille, aussi difficile qu'il puisse être. Heureusement, vous êtes sauvés. Si Dieu m'aime et me respecte, il faut que moi, je m'aime et que je me respecte. Amen. Si Dieu respecte les autres, il faut que moi, je les respecte aussi. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Une chose que je vous ai dit à plusieurs reprises déjà cette année, c'est que si vous n'êtes pas sûr de comment est Dieu, regardez à Jésus. Comment est-ce que Dieu traite les hommes et les femmes? Regardons à Jésus. Et ce que nous voyons, c'est que Jésus a traité les hommes et les femmes, jeunes, enfants, moins jeunes, avec dignité et respect. Et nous devons faire pareil. Jésus s'est intéressé aux malades, aux opprimés, à ceux qui étaient dans le péché. Luc 5, 31-32 dit, Jésus prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu apporter la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Ça veut dire quand vous péchez, repentez-vous. Amen. Et je voulais courtement regarder un homme. On avait parlé de lui au commencement de cette année, mais je veux que nous regardions l'intérêt de Jésus pour un homme particulier. On le trouve en Luc chapitre 19, et il s'appelle Zachée. D'accord? Et quelque chose est très important ici, parce qu'ici, nous voyons l'attitude de Dieu envers les riches. Tout le monde dit les riches. Quelle est votre attitude envers les riches? Oh, oui, toutes sortes de grimaces, sourires, oui. La plupart des gens dans le corps de Christ croient que nous devons prendre soin des pauvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas qu'on devrait aider les pauvres? On devrait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Ah oui. Et les riches? Est-ce qu'il faut les ignorer? Est-ce que Jésus les a ignorés? Est-ce que Dieu n'a pas une belle pensée pour les riches? Est-ce qu'on peut regarder un petit peu? Ouvrez votre Bible, regardez avec moi. On va lire donc Luc chapitre 19 et on va lire de 1 à 10. Et c'est l'histoire de Zachée et j'ai trouvé une petite image de Zachée. Il était un petit bonhomme. La parole de Dieu dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, tout le monde dit riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Est-ce qu'on a des gens de petite taille ici? Donc on va voir comment Dieu traite les gens de petite taille. Oui? Mais c'est important, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est très intéressant de lire ma Bible et voir comment Jésus réagit envers différentes sortes de personnes. Quelle est sa façon de traiter ces gens? Et il dit, Zachée, il coura en avant et monta sur un sycamore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ah, ça c'est bon, n'est-ce pas? Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Wow. Intéressant, n'est-ce pas? Je veux que nous apprenions certaines choses de cette histoire. Vous voulez apprendre quelque chose avec moi? La première chose que je trouve, peut-être vous trouvez c'est normal, oui? Mais peut-être il y avait son assistant qui lui a dit, Jésus, il s'appelle Zachée. Mais ce n'est pas marqué dans la Bible, n'est-ce pas? Jésus semble être en train de marcher dans la ville de Jéricho et il regarde et il connaît le nom de cet homme. Parce qu'il appelle par son nom. S'il connaît son nom, est-ce qu'il connaît ton nom? Est-ce qu'il s'intéresse par nom de chaque personne? Ah, je pense que c'est ce que cette histoire nous dit. Jésus s'intéresse, oui, de nous par prénom. Amen? Est-ce que je peux vous encourager, les amis? Faire comme Jésus. Comprends ceci. J'ai jamais vu Jésus. Et j'ai jamais lu ma Bible. Juste que j'ai vu Jésus chez les autres. Juste que j'ai lu ma Bible chez les autres. Amen. Il y avait un jeune homme qui est venu dans mon école. J'étais au lycée, j'avais 14 ans, et il est venu en tant que professeur étudiant. Et il a fait un stage pendant 6 semaines dans mon école. Et j'ai vu Jésus en lui sans savoir que c'était Jésus. J'étais pris par qu'est-ce qu'il a ce gars? Il vivait différemment. Et vous savez, mes sœurs ont commencé d'aller à un groupe de jeunes, oui, un an plus tôt. Et j'avais tout dans mon cœur d'aller avec eux parce qu'il semblait qu'elles s'éclataient. Oui, je ne sais pas ce qu'elles faisaient, mais je voulais être là. Ça m'a pris un an pour pouvoir y aller. Je passe des détails. Et quand je suis arrivé, qui était là? Ce jeune professeur, il était un professeur de mathématiques, d'accord? Oui. Et c'est lui qui m'a annoncé Jésus. D'abord par sa vie. Et après, par ses paroles. Et c'est avec lui que j'ai prié et j'ai invité Jésus dans mon cœur. C'était la première fois que j'ai vu Jésus. Dans l'homme. Et après, j'ai rencontré Jésus pour moi-même en l'invitant dans mon cœur. Est-ce que vous connaissez les gens par leur prénom? Je suis allé dans un magasin. L'autre jour, j'avais appelé parce qu'on avait besoin de quelques enveloppes. C'est un magasin bureautique. Et j'entre là et le jeune homme dit, ah, c'était vous? Il dit, oui, c'était moi. Il dit, mais vous vous appelez comment? Il me regardait comme ça, vous voulez connaître mon nom? Il dit, moi, je m'appelle John. Et on a serré la main et j'ai marqué dans mon téléphone pour me rappeler, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je vivais ça assez souvent et c'est bon de connaître son nom. Parce que quand tu adresses quelqu'un par leur nom, ça montre que tu t'intéresses à eux. Est-ce que vous connaissez le nom de votre boulanger? Boucher? Est-ce que vous connaissez le nom que vous voyez toutes les semaines? Moi, je dis, petit devoir. Commence à prendre des noms des gens qui sont autour de vous. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on traite les gens comme Jésus traitait les gens. Il les connaissait par nom. Amen? Aimez-les. C'est une façon tout de suite d'aimer quelqu'un, de se rappeler le nom. Excusez-moi, vous savez, pour les nouvelles personnes à l'église, normalement je dis ça aux gens, quand les gens me donnent leur nom, j'oublie la première fois. Ça me prend normalement 3 fois, mais après je le saisis. Ouais. Aujourd'hui j'ai un smartphone, donc je mets les noms et les noms des enfants dans le smartphone. Quand je les vois, je dis, ah oui, 4 enfants, ils s'appellent. Je ne peux pas vous dire combien d'amis nous avons qui ont 5, 4, 3 enfants. Et tout le monde dit, vous ne vous rappelez pas de leur nom? Je peux vous faire une liste si vous voulez. Jésus connaissait son nom. Il connaît votre nom et il veut que vous connaissiez les noms des gens qui vous entourent. Amen. Et après, qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose, Jésus s'invite chez lui. Oh, ça c'est intéressant. Jésus s'invite chez un riche. Est-ce qu'il s'invite chez lui parce qu'il est riche? Est-ce qu'il s'invite chez lui pour prendre quelque chose? On va voir dans l'instant, d'accord, s'il est parti pour recevoir quelque chose ou pour donner quelque chose. Permettez-moi de vous dire, est-ce que vous avez quelques amis, quelques connaissances riches? Oui? Vous savez, ils sont comme les autres. Ils ont des prénoms. Et si vous allez pour recevoir quelque chose d'eux, ils vont vous garder le plus loin possible. Mais si vous faites comme Jésus et vous allez pour leur apporter quelque chose, ils vont vous recevoir avec les bras grands ouverts. Les riches ont toujours cette peur qu'on va venir prendre d'eux. Et quelquefois, les chrétiens ont été les pires parce que nous sommes allés comme ça. Oui? Pas apporter quelque chose, mais la main vide en disant, ils sont riches, ils vous doivent absolument rien. Nous les devons quelque chose. Nous les devons l'évangile, la bonne nouvelle. Et je vous promets, si vous avez eu des mauvais rapports par la passé avec des gens riches, c'est parce que vous pensez qu'ils vous devaient quelque chose. Va avec quelque chose pour eux. Amen. Hallelujah. Ça, c'est une révélation pour certains. Merci Seigneur, ça va changer votre comportement. Amen. Jésus n'est pas parti pour prendre quelque chose, il est parti pour donner. Et après, qu'est-ce que nous voyons? C'est génial, n'est-ce pas? Verset 7 dit, voyons cela, tous murmuraient. Moi, je dis, il faut que nous décidons, chacun d'entre nous, est-ce que nous allons être ce eux, comme eux qui murmurent? Ou est-ce que nous allons être comme ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Ce que j'ai remarqué, ceux qui sont toujours en train de murmurer n'annoncent pas des bonnes nouvelles. Ceux qui annoncent les bonnes nouvelles ne sont pas en train de murmurer. Mais c'est un pécheur, c'est un homme riche. Et bien entendu, le riche, il a dû faire des choses pas correctes, n'est-ce pas? Sous la table, évidemment, vraiment. Tous les riches donc, sont malhonnêtes, c'est ça? C'est votre attitude? Vous croyez cela? Oh, que je suis désolé pour vous si vous croyez que tous les riches sont malhonnêtes. Vous savez, certains sont riches parce qu'ils ont mis les lois de Dieu en pratique. Certains sont riches parce qu'ils ont toujours été honnêtes, parce qu'ils ont toujours donné. Et Dieu les a bénis pour cela. Oui, il y a des riches qui sont malhonnêtes, mais il y en a autant de riches qui ne sont pas malhonnêtes. Ça, on a besoin de vraiment ouvrir notre intellect là et comprendre. Oui. Est-ce qu'ils sont pécheurs? Oui. Est-ce qu'ils sont rébellions envers Dieu? Il se peut, oui, actuellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est des malfaiteurs. Il se peut qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais il faut que nous décidons. Est-ce qu'on va être ceux qui murmurent ou est-ce qu'on va être ceux qui annoncent une bonne nouvelle? Amen. Quatrième chose, presque terminée là. Oui. Zachée a reçu Jésus avec joie. Amen. Tellement de gens se sont sortis rejetés par les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on parle de nous et d'eux. Dieu nous aime, mais il ne les aime pas. Et pourquoi Zachée a reçu Jésus avec joie? Parce que Jésus lui a appelé par son nom. Il a dit, je veux venir manger avec vous. Il a fait ce qui était normal dans sa culture, d'aller manger avec... Un petit peu comme notre culture, n'est-ce pas? Est-ce que les gens vous invitent? Est-ce que vous y allez? Ah non, je suis chrétien, je ne peux pas, ils vont boire. Oui. Il se peut qu'ils vont fumer. Il se peut qu'ils vont faire toutes sortes de choses que nous ne préférons pas faire. Amen. Est-ce que vous avez besoin de vous enivrer parce que d'autres s'enivrent? Non, certains chrétiens ne boivent pas. Il n'y a aucun problème d'aller chez les gens et ne pas boire. Il n'y a aucun problème non plus d'aller et apprécier un petit verre de vin. Oui, ça c'est pas un problème, sauf que si c'est un problème pour vous. Si vous avez eu un problème d'alcool, ne bois plus jamais. Mais si vous n'avez pas de problème d'alcool, vous pouvez apprécier un verre. D'accord? Mais ne dis pas, je ne peux pas aller vers chez eux parce qu'ils sont des pécheurs. Si on disait tout ça, qui va leur annoncer Jésus? Accepte leur invitation et s'il vous plaît, quand vous acceptez l'invitation, apportez quelque chose. Amen? Petit cadeau. Alléluia. Les gens sont prêts à vous recevoir aussi, avec joie, sauf si vous partez pour les condamner. Mais si vous partez pour les bénir, hein, ils vont vous recevoir avec joie. Cinquième chose, et là ça devient vraiment intéressant. Il a invité Jésus chez lui et Zachée a changé. Et comment est-ce qu'on sait qu'il a changé? Parce qu'il a commencé de donner. Amen. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Wow. « Voici, Seigneur, je donne les moitiés. » Est-ce que vous avez votre imagination avec vous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez imaginer que tous les riches de ce monde puissent rencontrer Jésus et dire, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Ce que ça ferait dans ce monde. Moi, je dis, il n'y aura plus de pauvreté. Il n'y aura plus de pauvreté, n'est-ce pas? On voit vraiment que Jésus n'est pas seulement entré dans sa maison, mais Jésus est entré dans son cœur. Et moi, je me demande toujours, quand les gens disent, mais Jésus est dans mon cœur, mais qu'il ne donne rien, moi, je dis, je ne suis pas convaincu de ça. Oh. Il faut donner pour être chrétien, non? Parce que nous sommes chrétiens, nous allons donner. Et après, il dit, et si j'ai pris quelque chose, je donnerai le quadruple. Donc, je pense qu'il était assez bon en maths. Ouais? C'était son métier, d'accord? Et il savait que s'il avait pris l'autre moitié des gens, il devait donner 4 fois plus que ce qu'il y aurait. Il sera, ouais, en découvert. Je pense qu'il est en train de faire un déclin. Je n'ai pas gagné malhonnêtement, mais si jamais j'ai fait, je... Ouais, rendrait 4 fois ce que j'ai donné. On voit vraiment quelque chose. Et si nous ne sommes pas sûrs, écoute ce que Jésus dit. Jésus déclare, oui, le salut est entré dans cette maison. Quelque chose se passe quand on invite Jésus chez nous, dans notre cœur. On a envie d'être une bénédiction. Amen. Et comme nous avons entendu pendant les dîmes et les offrandes aujourd'hui, c'est impossible d'aller apporter les choses sans partir avec des choses. Les gens ont peur. Mais j'ai peur si je donne, qu'est-ce que j'aurai? Moi je dis, n'ayez pas peur, vous aurez plus. Amen. Quel changement dans son cœur. Il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. Donc Jésus n'est pas parti, il n'a pas dit, Jésus, je te donne la moitié de mes affaires. Il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Hello? Oui? Parce qu'aujourd'hui, on critique beaucoup ce qu'on appelle la théorie de la prospérité, la théologie de la prospérité. Je n'ai jamais prêché ça. Moi, je prêche l'évangile. Et dans l'évangile, il y a la guérison pour le corps et la prospérité pour l'homme naturel. Amen? Oui? Mais ce n'est pas question de prendre, c'est une question de donner. Et moi je dis, ceux qui sont déséquilibrés vont vous dire, il faut donner à moi. Vous faites attention de ces gens. Oui? Si des gens ont des bons projets, oui, donnez à leurs projets. Si Dieu vous dit de donner à quelqu'un, donne à quelqu'un. Mais méfions-nous de ceux qui se prêchent toujours, il faut donner, donner, donner à moi. Jésus n'a pas dit, vous vous donnez à moi la moitié. Amen. Et moi je dis aux gens, parce que les gens... Vous prêchez la dîme ici, il faut que vous donniez la dîme. Mais si vous ne pouvez pas donner la dîme dans cette église, va dans notre église, Devenez membre de cette église et donnez votre dîme là. Mais surtout, ne vous privez pas de ne pas donner la dîme. Amen. Et moi, j'encourage à tout le monde, deviens membre de votre église. Comme ça, vous pouvez voir les comptes et voir comment est utilisé cet argent. Ça, c'est un des privilèges d'être membre d'une église. Amen. Et personnellement, je ne donnerai pas, oui, d'une façon régulière, ma dîme tous les mois, sans savoir où ça va. Hello? Oui? Mais j'ai jamais eu un problème avec les gens. Mais vous prêchez l'argent parce que vous avez... Non, nous prêchons donner la dîme parce que c'est biblique. La dîme appartient à l'Éternel. Nous prêchons donner parce que nous voulons que vous prospériez. Amen? Hallelujah. Donner, c'est un résultat du royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu entre dans le cœur de l'homme, on commence à donner. Amen? Je voulais finir en disant, vous donner trois choses. Il faut que nous vivons passionnément pour Dieu. Amen. Jésus est entré chez vous? Il habite dans votre cœur? Amen. Donc, il faut qu'on vit passionnément. Je vais répéter ce que je vous ai dit, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais c'est tellement important que nous comprenions. Les gens autour de nous ne voient pas Jésus, sauf en eux. Ils ne lisent pas la Bible sauf en eux. J'ai marqué vivant passionnément pour Dieu et permettant aux autres de voir l'amour de Jésus dans notre vie. Comment? Par notre attitude, par nos paroles et par nos actes. Dis avec moi, par notre attitude. Non, reste là. Par nos attitudes. Ouais. Qui détermine votre attitude? La première personne que vous rencontrez dans la journée? Souvent, oui. Quelqu'un se fâche avec vous à l'arrêt du bus, au tabac, tu vois, tu es en train d'acheter quelque chose et on se fâche à la boulangerie, quelqu'un coupe devant vous dans la circulation. Oui. Moi, j'assure que mon attitude est bonne du départ de la journée parce que la première personne que je rencontre dans la journée, c'est le Seigneur. Et je lui permets de déterminer mon attitude parce que j'ouvre ma Bible. Je lis, je lui parle, je le loue. Amen. Petite astuce pour vous. Amen. Par nos paroles. Vous pouvez dire un mot grossier, si vous voulez. Mais ça ne montre pas votre intellect, votre intelligence. Ou vous pouvez dire, bon, je vais louer le Seigneur. Dans le passé, peut-être, j'ai dit tel mot. Maintenant, je vais dire, gloire à Dieu. Alléluia. Non, ok, d'accord. Par nos actes, cherchant, oui, j'ai dit parole, pas ce qu'on dit. Par nos actes, tout le monde dit par nos actes. Il faut que nous partons pour donner, pour bénir, décidant, oui, chaque jour, dis, je suis un miracle ambulant. Amen. Je suis une source de bénédiction pour les gens autour de moi. Il faut que nous apprenions à le dire. Amen. Deux choses à savoir. Dieu vous aime et vous devez aimer les autres. Amen. Est-ce que vous voulez vous lever? J'aime pas terminer une célébration sans donner l'occasion, ouais, d'inviter Jésus dans notre cœur. Ouais. Peut-être vous ne l'avez pas encore fait. Peut-être vous vous êtes éloigné de Dieu et vous avez besoin de revenir au Seigneur. Je veux que vous répétez après moi si vous voulez inviter Jésus dans votre cœur ou vous voulez déclarer à nouveau que Jésus est votre Seigneur et Sauveur. Ceci, dis avec moi, je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Et je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je sais qu'on a des nouvelles personnes ici. Moi, je vous donne cinq choses qu'il faut faire pour avancer avec Dieu. Il faut lire la Bible tous les jours. Il faut parler avec le Seigneur comme ton meilleur ami. Il faut vous joigner ou à cette église ou à l'autre église et soyez fidèles. Hein? Il faut que vous soyez baptisés d'eau, comme signe extérieur de ce qui vient de se passer dans votre vie. Et il faut partager avec les autres ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Si vous faites ces cinq choses, vous allez grandir dans le Seigneur, avancer dans le Seigneur, et les choses vont changer dans votre vie. Amen. Alléluia. Je veux prier pour vous. Et après, si vous avez besoin de prière, il y a quelques membres de l'équipe pastorale qui vont avancer pendant que l'équipe louange chante un chant, et on peut prier pour vous en particulier. Mais Seigneur, je te remercie pour chaque personne ici présente ce matin. Merci Seigneur que nous sommes en train d'apprendre et comprendre quelle est ton attitude envers nous. Seigneur, que tu nous aimes. Oh, que c'est merveilleux de savoir, mais aussi que tu aimes les gens qui vivent autour de nous. Seigneur, merci pour ta grâce qui pourvoit tout ce dont nous avons besoin dans cette vie. Et merci, Seigneur, pour notre foi qui est en train de grandir chaque jour, qui apprend, nous donne la possibilité de recevoir ta grâce dans chaque domaine de la vie. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.